Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone could solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre, avec Simon Parent.
Bon mardi tout le monde, bonjour TP en studio.
Salut Simon.
Cette semaine à l'émission, nous allons parler de pensée réticulaire aborigène, de l'éveil de la terre et de commun avec l'anthropologue Barbara Glosewski. Vous écoutez À nous la terre.
Samedi, les défenseurs de la terre Wet'suwet'en ont rendu public un nouvel appel à rejoindre leur mobilisation en Colombie-Britannique. Le blocage appelé Gidimdin Checkpoint, qui a été déjà actif depuis longtemps lors de la mobilisation de 2020, a appelé tous ceux qu'ils peuvent à se rendre sur place pour protéger Wet'sinkwa, l'amont des bassins versants qui nourrit l'ensemble de leur territoire traditionnel. Ils appellent aussi tous ceux qui ne peuvent pas s'y rendre à faire ce qu'ils peuvent localement pour les soutenir, amplifier leur message et faire connaître le danger qui plane sur leur communauté. La semaine dernière, nous avons discuté avec Solène en direct de Ferry Creek, en Colombie-Britannique aussi, et avec des acteurs de deux autres luttes menées par des communautés autochtones dans ce qu'on appelle tristement le Canada. Deux semaines plus tôt, nous avions regroupé des personnes mobilisées contre des projets destructeurs et indésirés d'expansion portuaire et d'accaparement de terres, comme celui de Raymond Logistique, du port de Montréal à Contrecoeur ou de la zone d'innovation littorale Est à Québec. Les dernières années font penser que ce genre de mobilisation sont vouées à se multiplier. Est-il possible de penser ensemble ce renouveau culturel, politique et spirituel autochtone et la réorientation de l'écologie sur des luttes contre la destruction du monde et des usages qui en sont faits? Nous recevons aujourd'hui Barbara Glosewski pour parler avec elle de son récent livre « Réveiller les esprits de la Terre » paru aux éditions Dehors et qui nous aidera sans doute à cheminer dans cette question.
Barbara Glosewski, bonjour.
Bonjour Louis.
Vous êtes anthropologue, chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, directrice de recherche au CNRS et auteur de plusieurs livres et articles, dont « Du rêve à la loi chez les aborigènes »,« Les rêveurs du désert » et « Rêves en colère ». Vous avez répondu très amicalement à notre demande d'entrevue en nous envoyant la chanson récemment de votre fille Nidala. En terminant la lecture de votre livre, nous nous sommes dit que c'était censé, puisque vous êtes effectivement une amie, ou peut-être plutôt une amie d'amis, de ceux qui nous accueillent sur le territoire en lutte ou qui nous visitent quand nos territoires existentiels se révoltent. Plongeons d'abord dans la question fondamentale des alliances que nous avons préférées à une longue introduction biographique. Vous écrivez en début de livre que celui-ci est né d'un double engagement, qui se noue d'une part en France et d'autre part en Australie. Pour qui avez-vous écrit ce livre, « Réveiller les esprits de la Terre », paru cette dernière année aux éditions Dehors?
Ah, eh bien, je l'ai écrit pour les amis et les amis des amis et les amis des amis des amis, c'est-à-dire tous ces réseaux d'alliances qui se créent localement, régionalement, nationalement et transnationalement par rapport à des luttes très semblables comme celles que vous avez mentionnées au début pour défendre le bassin versant. Il y a eu, par exemple, la semaine dernière, tout un rassemblement de différentes personnes venues de France sur la Loire pour s'en prendre aux bassines qui sont en train de tirer l'eau de la Loire pour des grands champs. Et donc, voilà, je suis très, très sensible en France à toutes ces luttes contre l'extractivisme généralisé, que ce soit les minerais, les sédiments, l'eau ou aussi l'agriculture intensive, l'élevage intensif, et notamment qui prend à l'heure actuelle est un réseau qui s'appelle Soulèvement de la Terre et donc qui est en partie qui est né après 2018, après la destruction de la moitié des habitats de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où je suis très engagée depuis 2016, notamment avec la création d'un fonds de dotation qui s'appelle La Terre en commun, où il y a toutes sortes de projets collectifs des communs. Ça, c'est pour la France. Et puis, le livre est né dans le Limousin aussi. Donc, je traverse un peu le Limousin par rapport au fait qu'il y a une sorte de réinvestissement par beaucoup d'habitants, anciens ou nouveaux arrivants, des lieux, de la force énergétique, des pierres, et donc aussi un peu en quête, à la fois à travers les langues, comme l'occitan, le breton ou le basque dans d'autres régions, de comment retrouver des pratiques anciennes en les renouvelant par de nouveaux rituels pour soigner en même temps les milieux et tous leurs habitants, humains et non humains. Et du point de vue des alliances du côté australien, eh bien, ça fait 42 ans que je travaille en Australie avec des aborigènes. J'ai commencé dans le désert avec les Walpiri en 79, où je retourne régulièrement. Bon, là, malheureusement, à cause de la pandémie, les frontières australiennes sont fermées, donc je ne suis pas retournée depuis 3 ans. Mais j'ai aussi travaillé sur la côte nord-ouest, sur l'océan Indien, où j'ai vécu pendant des années, où sont nées mes deux filles, dont Nidala, dont on va entendre une chanson tout à l'heure. Et j'ai aussi travaillé contre les violences policières sur la côte nord-est.
Donc, si je comprends bien, le défi de votre livre, donc de tenter de penser ensemble les mobilisations qui ont lieu en France en ce moment, du type zone à défendre ou menées par les soulèvements de la Terre, par exemple, qui tentent de réactiver, voire de réinventer des rapports non destructeurs au territoire, et ce que vous appelez le totémisme contre l'État des communautés du désert australien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des échos que vous trouvez entre ces différentes mobilisations et ces formes de pensée que vous trouvez en Australie?
Oui, tout à fait. Bah, d'abord, d'une manière générale, hein, les peuples autochtones du monde, y compris ceux qui sont au Canada, et donc plus de 500 peuples de langues différentes en Australie, représentent près de 5% de la population mondiale, mais sur un territoire de la planète qui représente plus de 70% de la biodiversité. Donc, c'est pour ça que souvent on les appelle les gardiens de la nature. Sauf que pour tous ces peuples-là, la nature n'est pas séparée de la culture et que justement, l'enjeu pour eux, c'est de préserver tous les réseaux d'interdépendance que nous, on appelle maintenant en Occident écosystémiques, mais qui pour eux, depuis la nuit des temps, vont de soi, que la vie humaine est complètement dépendante des animaux, des plantes et des milieux. Et donc, il faut pas juste respecter ces environnements, mais sans arrêt travailler, et parfois c'est par des rituels, à maintenir tous ces équilibres pour permettre la reproduction de la vie. Et donc, en ce sens-là, je trouve, c'est ce qui m'a frappée quand je suis allée pour la première fois à la Z de Notre-Dame-des-Landes, que la manière dont l'activisme s'est développé depuis ces 10 dernières années a pris comme ça un tournant très important de se mettre à l'écoute du milieu et d'essayer de ressentir des énergies, et aussi en s'intéressant à la biodiversité et à tous les habitants non humains, de retrouver des pratiques qu'on avait perdues et d'en réinventer des nouvelles.
Et vous écrivez à travers ces pratiques l'importance finalement de l'alliance pour les attachements à la terre de part et d'autre. Pouvez-vous nous parler un peu de ces alliances? Comment s'organisent-elles? Sur quelle base se fondent-elles?
Eh bien, déjà, le principe même de l'alliance en anthropologie est toujours mis en écho avec la filiation. Et ça, c'est une opposition qui est très importante, parce que la filiation nous fait parler de la terre comme étant une question de sol et de sang, qui serait un peu essentialisante et excluante, comme si les habitants d'un lieu par rapport à leur ancienneté étaient les seuls qui avaient une légitimité sur cette terre. Or, ce que j'ai appris avec les aborigènes et aussi en rencontrant d'autres peuples autochtones, notamment qui ont été colonisés par la France, en Guyane française, dont je parle dans ce fameux livre « Réveiller les esprits de la terre », donc les Amérindiens, mais aussi des habitants qui sont là depuis un siècle, deux siècles, trois siècles ou quatre, c'est-à-dire même jusqu'à cinq, c'est-à-dire depuis que la colonisation de l'Amérique a commencé, et donc en l'occurrence par la France, des personnes qui ont été amenées de force par la traite dite négrière et qui ont fui l'esclavage et donc qui sont devenus les habitants alliés des Amérindiens et de tout, en survivant, en se cachant dans la forêt. Et donc, déjà, ça, c'est une leçon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît comme autochtones à l'ONU un certain nombre de peuples, donc qui représentent 5% de la population, mais en réalité, il y a une très grande hospitalité de la part de beaucoup de peuples à l'égard de ceux qui sont amenés à se déplacer. Et au-delà de l'histoire coloniale qui a pu être très violente, il y a eu beaucoup d'alliances. Et du coup, le discours qui est toujours ici en France particulièrement redouté d'une revendication d'autochtonie qui serait nationaliste, dans la pratique, mon expérience en tout cas en Australie, c'est que les aborigènes ne disent pas à tous les colons qui sont là, ils sont plus que 3% aujourd'hui les aborigènes, tous métis compris, bon disons tous métis compris 4%, mais ils ne disent pas aux non-aborigènes de partir. Ils demandent la souveraineté sur leurs terres, mais dans des alliances avec d'autres.
Donc, dans votre livre, on lit beaucoup que le totémisme, plutôt qu'une logique strictement de filiation, comme peut-être on pouvait le lire chez Claude Lévi-Strauss, relevait aussi de l'alliance avec le territoire, de l'alliance avec des espèces de plantes ou d'animaux. Je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez vu dans votre contact avec ces populations?
Oui, alors absolument. Quand je suis arrivée en 79 dans le désert central et que j'ai commencé à travailler et vivre avec les Walpiri, d'abord une chose importante à dire, c'est que j'ai surtout travaillé au départ avec des femmes, parce qu'il y a des activités qui sont différentes, et notamment au niveau des rituels, mais complémentaires, des hommes et des femmes, chaque sexe travaillant à une forme d'androgynie symbolique, mais comme disent les Walpiri en anglais, le business des hommes et le business des femmes n'est pas le même. Et pour devenir businessman ou businesswoman, c'est-à-dire gardien responsable des rituels et de tous les échanges avec les vivants et les non-vivants, enfin les vivants et les vivants qui ne sont pas pensés comme vivants chez nous, comme par exemple les pierres, l'eau et les montagnes, eh bien voilà, il faut absolument reconnaître ces liens d'alliance, ces liens d'interdépendance. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'équilibre soit maintenu? Eh bien, il faut chanter, danser et peindre. Et ça, c'est une responsabilité de maintenance de ces équilibres, de maintenance du milieu, qui évidemment s'accompagne aussi de pratiques très concrètes, de ce qu'une anthropologue canadienne, Sylvie Poirier, a très joliment défini comme les jardins nomades. Et donc, d'ailleurs, il y a en ce moment toutes sortes de débats en Australie à propos du fait que les aborigènes n'auraient pas été que chasseurs-cueilleurs, c'est la grande catégorie en anthropologie, mais avaient en quelque sorte, dans certaines régions, développé le début d'une proto-agriculture, mais du fait qu'ils prenaient soin du milieu et le transformaient à ce titre. Comme par exemple avec des pratiques de feu, de petits feux faits à la bonne saison, après les pluies, pour nettoyer le sol et éviter les grands méga-feux qu'on a pu voir l'année dernière et l'année d'avant. Et donc, l'ensemble de toutes ces pratiques qui constituent donc ce qu'on appelle le totémisme australien, en fait, ça fonctionne en réseau. C'est-à-dire qu'un peuple qui parle une seule langue n'a jamais un seul totem, ne s'identifie pas juste à un animal. Pour faire une société qui, en général, ne représente pas plus de 4000 personnes, eh ben, il faut que chacun a des responsabilités différentes vis-à-vis de totems différents qui sont tous en interaction.
Et dans Réveiller les esprits de la Terre, vous présentez l'État comme un créateur de déserts artificiels. D'abord, quelle expérience avez-vous faite du désert avec les communautés aborigènes d'Australie? Et comment ce désert, qui abrite à la fois des relations, des rituels et une multiplicité d'êtres, se distingue-t-il du désert que reproduit l'État?
Alors ça, c'est vraiment essentiel, parce qu'il y a une collègue anthropologue qui s'appelle Elisabeth Povinelli, qui a utilisé le désert comme figure typique occidentale de ce qui est sans vie. Or, le désert, évidemment, australien ou d'autres peuples du désert comme au Sahara, enfin, ou d'autres régions du monde, si le désert était sans vie, déjà, il n'y serait pas, puisqu'ils sont vivants, les humains, depuis des siècles et des millénaires, dans ces espaces désertiques. Mais aussi, il y a une richesse incroyable de plantes et d'animaux, souvent qui peuvent ne pas être visibles, parce que dans le désert, beaucoup d'animaux vivent sous terre, et donc il faut savoir à quelle heure, à quel moment de la journée ils sortent pour les chasser, ou alors on va les chercher sous terre, comme les reptiles par exemple, les lézards que l'on mange, différentes espèces de lézards, et puis pareil pour les plantes, il faut aller les chercher comme les ignames. Et donc ce désert est riche d'une incroyable vie animale et végétale, mais encore une fois, il faut l'entretenir, donc il faut pratiquer un soin de la terre. Et c'est à partir du moment où les aborigènes qui étaient semi-nomades dans le désert ont été sédentarisés de force dans des missions ou dans des centres, ensuite des communautés d'État, quoi, gérées de manière administrative au début un peu comme des... Ils n'ont pas pu entretenir la terre en se déplaçant et que d'une certaine façon, ce que disent beaucoup de peuples autochtones, même si ça leur a été imposé par la colonisation, ils sont responsables des différents déséquilibres, y compris climatiques, qui arrivent aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas pu faire le travail à la fois pratique de maintien de la terre et de ses équilibres et rituels qui va avec. Et donc, c'est pour ça que chez les jeunes aujourd'hui, et notamment tous ceux qui militent pour essayer de réparer la terre et aussi de récupérer leur territoire pour pouvoir le faire, eh bien, il y a ce revival de rituels. Parfois, on leur a interdit de parler la langue et de les faire à cause des missionnaires. Donc, des choses se réinventent et c'est par rapport à cette réinvention qui est propre aux autochtones, qu'il y a d'une certaine façon une résonance avec ce que nous, donc les colons, à la fois en Europe et dans les pays qui ont été colonisés par des pays européens, essayent de retrouver par rapport à des choses qui sont là, inscrites comme des traces dans nos milieux, ici, même quand il y a des villes qui ont été construites, et il faut se mettre à l'écoute, disent les aborigènes qui viennent parfois en France dans des festivals chamaniques ou néo-chamaniques. Ils nous disent à nous, donc en français en l'occurrence, eh bien, au lieu d'aller chercher et de copier des choses que nous faisons chez nous par rapport à notre milieu, mettez-vous à l'écoute de vos milieux et de ce que vous disent les traces, et notamment en essayant de les entendre et de les écouter en rêve.
C'est donc le soin, la réactualisation des rituels, le respect, l'écoute de la terre qui peuvent peut-être effectivement éveiller ces esprits-là de la terre dont vous parlez. On va prendre, Barbara Glosewski, une courte pause pour écouter votre fille Nidala et sa chanson « Colors of my people ». Donc on revient tout de suite après la pause.
Bienvenue à nous la Terre sur les ondes de CKIA FM. Barbara Glosewski, vous avez un très grand sourire au visage en écoutant cette chanson de votre fille. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle, de ce qu'elle fait Nidala?
Bien sûr, elle vit en Australie. Son père a une maman aborigène qui nous a quittés trop tôt, Teresa Barker, qui est Djougoun, du peuple Djougoun. Et Nidala s'identifie à ce peuple puisqu'elle est née sur ces terres-là, dans le nord-ouest de l'Australie, dans la ville de Broome. Et ce sont donc les gardiens de ce territoire-là. Et maintenant, elle vit sur la côte est, mais elle continue à travailler avec toutes sortes d'organisations aborigènes et non aborigènes pour justement prendre soin de la terre. Et dans cette chanson qui s'appelle « Colors of my people », pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, dans les années 70, les quelques 500 peuples de langues différentes d'Australie ont, pour défendre leur mouvement de revendication de droit à la terre dont ils avaient été chassés, spoliés, ils ont imaginé, enfin c'est un artiste qui avait imaginé à l'époque un drapeau qui a été adapté par tout le monde pour être en quelque sorte le signe de l'ensemble des aborigènes et de leur lutte. Et donc c'est rouge en bas, pour la terre et le sang des massacres de la colonisation, noir en haut pour le peuple aborigène, quelle que soit leur couleur de peau, parce qu'avec le métissage, beaucoup d'aborigènes aujourd'hui sont clairs de peau, et un cercle jaune au milieu pour l'espoir, le soleil de l'espoir. Et donc, dans cette chanson, Nidala décline ce que sont ces couleurs pour elle, pour arriver donc justement à cette question de la justice pour laquelle elle lutte.
C'est une très belle découverte. En tout cas, merci beaucoup de nous l'avoir envoyée puis de nous avoir permis de la faire jouer aujourd'hui à l'émission. On va revenir à votre livre un peu pour essayer d'explorer un peu plus de thèmes qui y sont abordés. Comment on a pu le voir dans l'énumération des titres de vos livres, le rêve revient souvent, hein? Rêve en colère, du rêve à la loi chez les aborigènes, les rêveurs du désert. Le rêve, donc, semble être un des aspects les plus importants de la vie et de la pensée des communautés aborigènes australiennes. Comme vous l'écrivez dans « Réveiller les esprits de la Terre », le rêve parcours est un parcours, une ligne ancestrale de voyage qui laisse des traces dans le paysage sur l'ensemble du continent. Les rêves sont le terme aborigène que les anthropologues ont longtemps traduit par totem. Pour les aborigènes, les rêves d'animaux et de plantes sont des devenirs qui s'incarnent dans les humains. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Donc, le totémisme, totem, c'est un mot algonquin, donc qui vient en fait des Amérindiens et correspondant à un type de lien spirituel entre des humains et des animaux. Mais comme les anthropologues et les observateurs divers de l'époque ont trouvé ça dans beaucoup de pays qui colonisaient, ils ont essayé de faire une théorie du totémisme. Mais arrivé en Australie, très tôt, des ethnographes se sont aperçus que ce que les anthropologues voulaient appeler totem, en fait, les aborigènes utilisaient un mot de leur langue différente, hein, des centaines de langues, qui signifie rêve. Et donc, a priori, bon, c'est pas le rêve tel qu'on le conçoit en Occident, c'est une conception du rêve qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que la réduction, par exemple, psychanalytique et qu'en fait l'inconscient. Le rêve n'est pas tant opposé au réel, c'est une dimension parallèle, mais qui est incarnée dans la matière. Et donc, du coup, quand un aborigène dit « mon rêve est kangourou » ou « mon rêve est prune » ou « mon rêve est la constellation d'Orion » ou « des Pléiades » ou « le feu » ou « la pluie », ce qu'il dit en fait, c'est qu'il a un lien spirituel avec cet être pluriel-là, et donc à cet égard, il a des responsabilités, et chacun de ces peuples dits de rêve, peuple kangourou, peuple igname, peuple étoile, est dit avoir parcouru la Terre avant l'apparition des humains et des espèces animales et végétales telles qu'elles sont aujourd'hui, et avoir... En métamorphosant la surface du sol qui était molle, en faisant surgir par leurs actions diverses, en urinant, en pleurant, en perdant du lait, des seins, ont transformé en quelque sorte, ont modelé le paysage d'une manière dynamique qui a donné des sites sacrés qui sont des rochers, des sources. Et donc, à partir de là, les humains qui descendent d'un peuple donné, qui est différent dans un groupe qui parle la même langue, il y a des centaines de différents animaux, plantes et autres donc phénomènes dont se disent un petit groupe local être le descendant, mais un groupe local étant semi-nomade, ça peut être sur 100 km, c'est une ligne qui rejoint donc les traces de son peuple, et donc aussi bien les humains, par exemple kangourous, que les kangourous sont les descendants de ces êtres de rêve qui étaient en quelque sorte avait une forme indéterminée. Et pour vous donner un exemple dont je parle dans le livre, par exemple, la ligne du rêve émeu, l'autruche australienne, eh bien en fait, les traces qui ont été laissées aussi bien en bord de mer dans le nord-ouest, donc où est née Nidala et sa sœur Milari, et jusque dans le désert, les traces, c'est à peu près une sorte de flèche de 1 mètre qui a été identifiée par nos scientifiques comme étant des traces de dinosaures à plumes. Et donc, les aborigènes disent que l'ancêtre émeu était un géant à plumes qui a laissé ses traces avec ses pattes. Et donc, les humains aujourd'hui qui ont le rêve émeu, tout comme les émeus, sont liés comme des frères et sœurs par rapport à cet ancêtre commun. Mais la société qui représente la tribu qui parle la même langue, eh bien, il faut une centaine d'animaux et de plantes pour constituer la société. Et donc, on a autant besoin des rituels du rêve émeu, du rêve kangourou, du rêve igname que du rêve pluie. Tout est complémentaire, sans hiérarchie. Et donc, en ce sens-là, c'est un modèle qui n'a pas eu besoin de l'État et qui, d'une certaine façon, depuis la colonisation, bon, qui s'est faite il y a à peu près 230 ans en Australie, mais pour les aborigènes du désert, c'est beaucoup plus récent, c'est à peine 100 ans. Et donc, il y a une mémoire, vécue de la vie de chasse et de cueillette avant qu'ils aient été forcés à la sédentarisation dans les années 40. Et donc, pour eux, cette espèce de système de savoir autochtone est toujours opérant.
Le rêve, donc, est un processus, comme vous dites, de réactualisation de la vie. Et donc, pourriez-vous nous parler un peu de cette distinction-là entre ce que vous appelez le processus de réactualisation et de virtualisation, et peut-être mentionner le rôle justement distinctif des hommes et des femmes dans ce processus au sein des communautés aborigènes australiennes?
OK, bon, c'est difficile en peu de temps. C'est pour ça que j'ai écrit tellement de livres, parce que je n'ai jamais fini d'expliquer tout ça. Mais ce qui est très important, bon, restons dans le désert. Il y a deux concepts, Kanunchu, qui est le dessous, et Kamkalu, qui est le dessus. Et moi, en voyant comment ces deux concepts étaient utilisés au niveau rituel, ou par exemple, pour aller très vite, on disait que les femmes étaient responsables du dessus, Kankalu, et les hommes du dessous, Kanunchu. Mais ces termes-là étaient aussi utilisés pour dire que Kankalu, c'est le public, et Kanunchu, c'est le secret. Ça ne veut pas dire que les hommes ne s'occupent pas d'affaires publiques aussi et que les femmes n'ont pas des secrets, mais qu'ils le font de manière différente. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition dualiste, d'un côté le secret et de l'autre côté le public, c'est qu'il faut tout le temps passer de l'un à l'autre. Donc, moi, j'ai choisi de traduire Kanunchu et Kankalu, pas juste par dessous et dessus, mais par, pour le dessus actuel et pour le dessous virtuel. Et de cette façon-là, on ne peut comprendre la vie rituelle que comme des activités rituelles, que ce soit la peinture, la danse ou le chant, comme un passage constant de l'un à l'autre. Et les hommes et les femmes qui sont séparés dans les rituels le font de manière différente. Après, pour les détails, je vous invite à lire. Mais ce que je voudrais juste rajouter, c'est que moi, j'avais fait des études dans les années 70 dans un département à Paris 7 qui était animé par Robert Jolin, qui avait été un des premiers à dénoncer l'ethnocide. Et dans ce département, on avait des visites d'Amérindiens, d'ailleurs du Canada, qui parlaient déjà de leur lutte. Et c'était, dans les années 70, c'était extrêmement populaire en France, la pensée de Deleuze et Guattari. L'anti-Œdipe, Mille Plateaux, les réflexions sur les rhizomes, les réflexions de critique de la société contre l'État, etc. Et eux, ils ont utilisé en philosophie justement ces notions d'actuel virtuel avec des processus d'actualisation, virtualisation. Et donc, moi, j'ai été un peu nourrie à cette pensée-là. Et quand j'ai rencontré les aborigènes en 79, hein, pour ma thèse, j'avais 23 ans, j'ai été stupéfaite de voir que cette manière de penser qui m'avait nourrie en tant qu'étudiante était en quelque sorte était à l'œuvre chez les aborigènes. Et après coup, parce qu'en 79, il n'y avait pas encore l'Internet, quand l'Internet est arrivé, j'ai été à nouveau stupéfiée de voir que, en fait, leur système de réseau avec ces milliers de lignes qui traversent l'Australie pour d'ancêtres éternels du rêve qui ont posé donc des repères, des traces qui deviennent des sites sacrés, et ben en fait, c'était la structure associative qu'on a matérialisée, parce que ce n'est pas que du virtuel, par le système des réseaux sur Internet. Et d'ailleurs, il n'est pas surprenant que beaucoup de peuples autochtones, d'abord en Australie, mais aussi en Nouvelle-Zélande et au Canada, en Amérique du Sud, etc., se sont très facilement entrés dans l'usage des réseaux. Parce que d'une certaine façon, bon, c'est la dernière chose qui est quand même importante, ça ne tombe pas du ciel. C'est déjà en nous, dans la matière, les réseaux, et on l'expérimente justement en rêve, dans la pensée associative et la pensée synchronique.
Donc, si je comprends bien, le rêve est un lien avec un passé qui est toujours présent dans ces traces-là qui ont été laissées sur le paysage, mais aussi par le fait que cette tradition-là est réactualisée parce que les gens qui vivent le rêve de tel ou tel être suivent un devenir particulier qui est associé avec le rêve qui a été vécu par des générations avant ou qui a été acquis par la naissance sur un sol ou par la famille ou par comme on peut lire dans votre livre, par le fait que la mère est tombée enceinte ou s'est rendue compte qu'elle était enceinte à tel ou à tel endroit.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, les Walpiri du désert, mais aussi leurs voisins, disent que si vous n'êtes pas aborigène, mais que vous naissez sur un territoire, par exemple, qui serait le territoire des Walpiri du désert, eh bien, en fait, la vie n'est possible que parce que les parents ont été attrapés par un esprit enfant d'un lieu, donc qui est associé à un des peuples de rêve, et que donc l'enfant naît avec un esprit de conception qui correspond à tel animal, telle plante ou une étoile. Et donc, c'est valable pour tous les humains. Mais quand ils disent, mais c'est valable chez nous en Australie, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas valable partout dans le monde. Et donc, si vous ne savez pas quel rêve totem vous incarnez, eh bien, il faut aller le chercher dans vos rêves.
Et donc, si on revenait à ce territoire qui est ici, celui qu'on appelle le Canada, et le Québec, la tentative de lier au niveau de la pensée des luttes autochtones et des mobilisations menées par des colons pour la protection de territoires est presque inévitablement reçue avec suspicion. Le primat de la pensée sociologique impose de penser à partir de catégories sociales, mutuellement exclusives et menées par des intérêts divergents. Paradoxalement, les non-autochtones qui appuient leur lutte cherchent à se lier avec les éléments les plus, disons, traditionnalistes ou animiste pour faire simple, mais persiste le plus souvent à les rencontrer depuis un point de vue, disons, strictement rationaliste. Toute tentative de rapprochement dans la pensée ou sur le terrain de l'ontologie est suspecte d'appropriation culturelle ou d'auto-autochtonisation. Nous serions assez intéressés de vous entendre sur ce sujet. Par exemple, la Confédération Haudenosaunee-Iroquoise du Canada a une tradition qui permet de nous penser nous-mêmes allochtones en regard de concepts partagés. Le wampum à deux voix qui présente deux lignes mauves parallèles sur un fond blanc. Il est l'inscription sur une ceinture de coquillage d'une entente qui dicte que les peuples descendants d'Européens et d'Autochtones doivent chacun suivre leur propre voie et ne pas interférer l'un avec l'autre. On voit bien que du côté des colons, cette entente n'est évidemment pas toujours respectée.
Ben c'est sûr. Je sais qu'au Canada, vous avez un régime particulier qui ne reconnaît les enfants du métissage que du côté de la mère et pas du côté du père. Ça, c'est impensable en Australie. C'est-à-dire, il suffit d'être métisse d'un côté ou de l'autre. Ceci dit, dans certains tribunaux pour les revendications territoriales, il y a toujours un avocat du diable, si j'ose dire, qui est là pour empêcher la restitution des terres, qui va se servir de vieux traités anthropologiques qui ont dit que les aborigènes n'étaient pas trilinéaires pour ne pas reconnaître les descendants par la mère. Mais bon, ça se gagne en justice. Et donc, c'est important de reconnaître que justement, pour sortir de l'injonction de la filiation, du fait que peut-être, comme il y a eu par la colonisation beaucoup de métissage, plus dans certaines régions que d'autres, il y a eu des aménagements ontologiques qui ont été faits par les peuples mêmes et les gens avec qui ils ont été amenés à vivre en solidarité. Ça n'exclut pas qu'il y ait des conflits réels et qu'il y ait du racisme, bien sûr, et aussi des enjeux économiques, politiques qui font que s'il n'y a pas d'alliance, il faut essayer d'en faire pour pas détruire la terre. Donc, moi je suis jamais dans le binarisme et le dualisme exclusif. J'essaie toujours de penser les choses en alliance, au sens où il ne s'agit pas de remettre en question sur un modèle de l'identique les différences, ce qui est très difficile à faire comprendre en France, parce qu'on a dans la Constitution la République une et indivisible, qui ne fonctionne pas du tout comme au Canada, où on reconnaît quand même, malgré d'autres problèmes qu'il peut y avoir, qu'il y a des différences et qu'elles ne sont pas nécessairement en termes de rapport de domination. Bon, la domination, bien sûr qu'elle existe aussi politiquement, historiquement, économiquement, mais je veux dire le principe même de reconnaître qu'on peut cohabiter dans des différences, même je veux dire homme-femme, voilà, et tout le reste, culturel, religieuse. Bon, et donc par rapport à ça, oui, c'est essentiel de travailler non pas à ce que, par exemple, en Australie, on appelle la réconciliation. Il y a des aborigènes qui ont été engagés dans les années 90 dans les politiques proposées de réconciliation et qui ont été insatisfaits de la manière dont c'était récupéré par l'État ou les États, puisque l'Australie est une fédération de sept États. Et donc c'était différent selon les États. Et donc ont été critiques du processus en disant l'enjeu, c'est pas la réconciliation. L'enjeu, c'est que tous les habitants reconnaissent ensemble qu'il faut réparer la terre. Et en réparant la Terre, eh ben, ça veut dire qu'il faut donner des droits aux aborigènes de continuer à s'en occuper. Et donc, par exemple, comme en Nouvelle-Zélande, il y a eu la reconnaissance du fleuve Whanganui comme étant une entité vivante, comme le disent les Maoris gardiens de ces régions-là, parce que le fleuve traverse beaucoup de régions. Le fait de reconnaître le fleuve comme une entité vivante, selon la cosmologie maori, était une manière de reconnaître les Maoris qui habitent là comme étant les gardiens de ce fleuve. Donc en Australie, la question se pose de la même manière avec d'autres juridictions, etc. C'est en cours, mais la question aussi se pose aujourd'hui en France, par exemple, quand les gens militent sur le même modèle pour défendre les fleuves de la pollution, de la sécheresse, du changement climatique, de tout ce qui les détruit, l'extraction des sédiments, la construction des bassines sur les bassins versants dont on parlait au début. Et donc, l'enjeu, c'est qui est en situation de gardiennage pour parler au nom des formes dits vivants qui ne parlent pas comme nous. Mais ceci dit, les Walpiri ont un seul mot pour dire parole. Les humains, c'est Wankami. Les humains parlent, Wanka. Le tonnerre parle, Wanka. Les animaux parlent. Ah, ça n'exclut pas qu'il y ait des termes très spécifiques comme on a en français pour décrire le type de son que font tels animaux, etc. N'empêche que tout le monde parle. Il faut simplement se mettre à l'écoute de ces paroles. C'est pour ça que j'avais écrit « Rêve en colère ». C'était une façon de dire que les peuples ancestraux éternels qui sont présents dans la matière, dans les lieux, se mettent en colère à cause de tous ces déséquilibres et de toute cette violence, du viol qui est fait à la terre par l'extraction minière et autres.
Et du point de vue de la rencontre, est-ce que, selon vous, il y a des voies de sortie qui sont possibles justement à la conception naturaliste qui persiste même chez ceux qui peuvent être les plus enclins à vouloir encourager ou à soutenir les luttes des Autochtones, mais qui ou des Aborigènes en Australie, mais qui restent dans cette espèce de réflexe de pensée naturaliste? Est-ce qu'il y a des voies de sortie pour vous? Vous avez parlé de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous croyez qu'il y a des rituels qui sont en jeu là-bas qui permettent d'entrevoir d'autres formes de pensée?
Bien sûr, c'est pas seulement des rituels. Déjà, il y a un slogan qui était très très fort, qui s'est popularisé en dehors de la ZAD, mais qui était parti de la ZAD à l'époque. À l'époque, je veux dire, en 2012-13, je pense, nous sommes la nature qui se défend. Et c'est des humains qui parlent. Nous sommes la nature qui se défend, ça les aborigènes pourraient le dire, sauf qu'ils n'ont pas de mots pour dire nature. Donc, il y a des registres qui sont différents. De l'espace qui est habité par les humains ou pas par les humains, qui est habité par des esprits, il y a des différentes couches d'invisibilité, etc. Mais là, ce qui est important par rapport aux solutions, c'est de dire que nous sommes tous solidaires. Quand on habite un milieu, on est tous solidaires. Et qu'aujourd'hui, sur la planète, on doit aussi être tous solidaires du fait que l'interdépendance n'est pas seulement entre les animaux, les plantes, l'eau et les lieux du territoire qu'on habite, mais que ce que l'on fait sur un territoire, comme par exemple l'histoire des bassins versants, a un impact sur là où coule l'eau chez les voisins et les voisins des voisins et les voisins des voisins. Et que si on fait de l'extraction au Canada ou en Australie, c'est pour fabriquer des choses dont nous avons besoin en Europe et sans lesquelles on n'aurait pas les modes de vie que l'on a. Donc, pour qu'il n'y ait plus d'extraction qui détruit tout au Canada, en Europe ou en Amérique du Sud ou en Afrique, eh ben, il faut qu'on change nos modes de vie. Et ça veut dire des alliances. Et ces alliances-là, aujourd'hui, elles sont portées par des rencontres, par des soutiens, par des actions de solidarité entre des peuples autochtones, des ONG et toutes sortes d'actions militantes qui se diversifient en réseau, qui sont à la fois locales, régionales, nationales et transnationales. Moi, je préfère dire transnationales que internationales, parce que international, ça suppose que ça se passe entre gouvernements, entre nations, alors que transnationales, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont minoritaires, mineurs, comme on dit aussi selon la pensée de Deleuze et Guattari, et qui ont ce pouvoir de transformer le majeur.
Par exemple, en Australie, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des liens qu'il y a peut-être entre des mouvements menées par des aborigènes, dans lesquelles des non-aborigènes peuvent s'impliquer. Est-ce qu'il y a de la friction quand il y a ce type de rencontres-là qui se font dans des mouvements pour défendre des territoires habités par plusieurs peuples?
Il y a eu de la friction, comme il y en a dans le monde entier, pour toutes sortes de raisons. La première étant qu'il y a des types, de, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'ONG ou de mouvements qui pensent que pour préserver la nature, il faut exclure les habitants humains. Et donc, évidemment, ça, c'est un point sensible, je pense, au Canada, c'est un point sensible en Australie, et donc, il y a toujours ce genre d'associations qui veulent, mais c'est difficile en Australie, contrairement à la France, où en ce moment, il y a des choses comme ça par rapport aux loups, qui veulent enfermer, réensauvager un territoire en interdisant des pratiques humaines. Donc, ça, c'est très problématique. Donc, avec ceux qui veulent faire ça, les alliances sont difficiles parce qu'il faut arriver à négocier pour faire bouger ces lignes-là. Par contre, il y a toute une série d'organisations militantes, je ne vais pas en nommer parce qu'il y en a juste trop, qui soutiennent effectivement les revendications aborigènes et inversement. Donc, par exemple, si cela vous intéresse, juste tapez sur vos liens de vos moteurs de recherche, fracking, hein, pour le gaz de schiste. Et donc, en ce moment, il y a une lutte très, très forte en Australie, dans le nord de l'Australie et dans le désert, contre le gaz de schiste, qui est très, très dangereux pour l'Australie, parce que pour extraire donc, du gaz par fracturation, il faut aller très profondément dans le sol, aller chercher de l'eau, énormément d'eau. Pour vous dire, un puits d'extraction de gaz de schiste dans le nord-ouest de l'Australie, du Kimberley, c'est autant d'eau que ce que les habitants du Kimberley, qui s'étale sur 1500 km est-ouest, utilisaient comme eau en un an. Et il y a des projets qui ont commencé, hein, depuis pour de fracturation de gaz de schiste, ou de 100 000 puits. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, il y a tout un mouvement sur la rivière Fitzroy qui s'appelle Mardwara en Nikina, pour justement la reconnaître comme une entité vivante, avec tous les groupes aborigènes, une trentaine qui en sont les gardiens sur le fleuve, pour empêcher tout ça. Donc, c'est pour faire ça, évidemment, l'une des alliances, allez, je vais vous donner un nom, c'est Droits de la Nature. Mais encore une fois, le droit de la nature dans l'association Droits de la Nature, ce n'est pas juste défendre les droits de la nature. Il y en a qui disent droit de la terre-mère. Bon, c'est pas que la terre-mère. Pour les aborigènes, la terre n'est pas que mère. C'est tout un système de parenté très complexe selon le lieu où on est. Mais le mouvement Droits de la Nature suit justement et accompagne toutes sortes de luttes autochtones à travers le monde pour faire reconnaître, faire bouger ontologiquement et pratiquement et juridiquement la conception que nous avons de la nature comme passive, de la nature comme de la terre comme inerte. Je ne sais pas si on enseigne encore ça dans les écoles au Canada, mais en France, c'est toujours ça. Inerte, c'est-à-dire pas vivante. Donc voilà, pour faire bouger ces idées-là dans l'enseignement de la science, il y a des alliances qui sont très concrètes, qui se mettent en place en ce moment.
Mmh. Et vous avez évoqué également tout à l'heure les soulèvements de la Terre, donc effectivement cet éveil des esprits de la Terre un peu partout.
Absolument.
Barbara Glosewski, merci énormément pour cette discussion. Est-ce que pour terminer, vous auriez peut-être quelques lectures à nous référer ou des réflexions à nous lancer, quelques pistes?
Écoutez, pour les lectures, il y a tellement de livres extraordinaires qui sont écrits d'abord par des autochtones. Puisqu'on parlait de ça déjà, et je pensais au Canada, vous avez des écrivains formidables, il y en a en Australie qui sont traduits en français, mais qu'on peut, évidemment au Canada on peut les lire, beaucoup de gens lisent l'anglais. Il y a beaucoup d'auteurs extraordinaires pour ce qui est de la France dans les territoires dits d'outre-mer, et donc des écrits kanak, beaucoup de romanciers, des écrits polynésiens. Et donc, je vous invite à explorer ça parce qu'aujourd'hui, pour comprendre comment tous ces peuples-là voient le monde à la fois contemporain et leur histoire et leur cosmologie, ben, le mieux, c'est d'écouter comment eux traduisent dans les langues devenues coloniales, enfin, les langues qui sont les leurs, mais qui ont été imposées par la colonisation, comment ils traduisent leur singularité et ce que nous avons à en apprendre.
Merci énormément. On peut également vous lire dans Du rêve à la loi chez les aborigènes, Les rêveurs du désert, Rêve en colère et Réveiller les esprits de la terre, donc publié cette année aux éditions Dehors en France. On a écouté également la musique de Nidala, Colors of My People, qui était tout à fait excellent. Et vous pouvez également maintenant écouter l'émission en rediffusion, donc vendredi à 11h sur les ondes de CKIA. Et il est maintenant possible d'écouter les épisodes en balado via le www.contrepointmedia ou le lien anchor.fm. Encore une fois, merci énormément Barbara Glosewski pour ces échanges très riches. Ça nous nourrit effectivement, ça nourrit en nous un éveil, on l'espère, et une capacité à prendre soin et à défendre la Terre. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine.
Merci.